Bienvenue sur cette antenne. Vous écoutez la Radio Mondiale Adventiste qui vous propose aujourd'hui La Voix de l'Espérance, une émission qui vous est présentée par Oscar Miani. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve sur notre antenne. Encore une fois, soyez les bienvenus à l'écoute de La Voix de l'Espérance, notre émission quotidienne de 30 minutes qui vous est présentée par Oscar Miani. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur cette antenne ou aussi en podcast sur www.awr.org ou aussi avec votre téléphone, et d'ailleurs je vous donnerai les numéros un peu plus tard. Aujourd'hui au programme, eh bien, Parole solidaire, un moment d'information humanitaire, et ensuite, pour conclure cette émission, vous retrouverez un moment de témoignage avec C'est vous l'histoire. Je suis très heureux de vous retrouver pour Parole solidaire, votre rendez-vous sur les solidarités internationales. Et aujourd'hui, nous parlerons de l'accès à l'eau au Cameroun avec Ariane Undefo, chargée de communication chez ADRA France. Bonjour Ariane.
Bonjour.
Comment ça va ?
Oh, je vais bien, merci.
Merci de nous retrouver ici à ce micro. Donc, vous allez nous parler d'un projet d'eau et d'assainissement au Cameroun qui s'intitule WASH. Alors, pourquoi WASH ?
WASH ?
C'est un jeu de mots avec l'eau, évidemment, en anglais.
Oui, mais WASH, c'est un terme qu'on utilise en fait pour les projets de développement. Donc, il signifie Water, Sanitation and Hygiene. Mm-hmm. Ce sont des projets d'eau et d'assainissement. Donc, ça va contribuer tout simplement à donner l'accès à l'eau potable dans les endroits où les personnes n'ont pas accès.
Et alors donc, quand on parle de l'accès à l'eau potable, notamment au Cameroun,
oui,
est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle région du Cameroun ?
Alors, ce sera de la commune de Dir, plus exactement, donc qui compte 36 000 habitants.
Mm-hmm.
Et dans cette commune, il y a 60% de la population qui n'a pas accès à des forages qui fonctionnent correctement, qui fonctionnent, donc ils n'ont pas tout simplement accès à l'eau.
60% de la population
n'a pas accès à des forages fonctionnels. Donc il y a des forages, mais des forages qui ne fonctionnent pas correctement,
oui,
qui ne fonctionnent pas. Donc ça va entraîner soit de boire de l'eau qui n'est pas sain, donc des maladies hydriques, ou alors de faire des parcours, de faire des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Comment ça se passe au Cameroun, parce que je viens d'Afrique aussi et je connais un petit peu...
Ah d'accord, donc en fait vous connaissez le contexte.
Le contexte, ça veut dire que si les points d'eau sont beaucoup trop loin, certains vont faire peut-être moins de kilomètres et aller au marigot.
Qu'est-ce que c'est le marigot ?
Donc le marigot, c'est un cours d'eau, c'est comme une mare,
oui,
pour faire comprendre le contexte. Et dans un marigot, on peut aller chercher de l'eau, on peut aussi aller se laver, on peut aussi aller, vous voyez ?
Donc ça veut dire que l'eau n'est pas tellement consommable ?
Non, non. Ah. On prend des risques, on prend de gros risques en allant au marigot.
En s'infectant avec des maladies
Voilà.
Donc en fait, on comprend que ce contexte dans cette commune de Dir n'est pas favorable à ce qui est une bonne hygiène de vie, en tout cas une bonne hygiène physique. Et alors donc ADRA France souhaite intervenir sur cette commune pour améliorer les conditions alors quotidiennes.
Voilà, donc ADRA France va travailler en partenariat avec ADRA Cameroun, donc qui est sur place pour gérer ce projet aussi. Le projet va d'abord impacter directement 3600 personnes, donc qui sont vraiment très proches des points de forage. Et aussi 5 écoles, donc qui sont de la commune de Dir, dans laquelle ADRA France aussi va créer des latrines.
Uh-huh.
Donc vraiment améliorer l'hygiène de vie.
Parce qu'en fait, quand on parle de l'eau, il y a aussi la question de l'assainissement qui arrive juste derrière.
Voilà, mm-hmm, voilà.
3600 personnes qui vont être concernées par ce que ADRA France souhaite mettre en place ou par le projet qu'ADRA France veut,
oui,
développer sur la commune de Dir. Ça veut dire que aujourd'hui c'est plus de la réhabilitation de puits ou de points de forage hein, dont,
oui,
il s'agit.
C'est de la réhabilitation, donc on ne va pas créer, on ne va pas aller forer.
Vous n'allez pas forer de nouveaux puits, mais réhabiliter ceux qui sont en panne. Pourquoi est-ce qu'un puits est en panne, Ariane Undefo?
Parce qu'un puits, c'est comme en Europe, où ce qu'on connaît, ce sont des systèmes qui sont déjà très bien gérés. Mais les puits, ces points de forage, il faut aussi les entretenir.
Et donc il y a un mécanisme
voilà,
électrique ou simplement
c'est
mécanique
C'est mécanique.
Oui.
Et il faut aussi régulièrement gérer s'il n'y a pas des infections. Donc c'est vraiment un travail d'entretien, tout simplement, d'entretien
D'accord.
mécanique,
oui.
et aussi vérifier à chaque fois si l'eau qui sort des puits est consommable et est potable.
Comment est-ce qu'on fait? Parce que, admettons que vous alliez dans cette commune de Dire, vous réhabilitez les points de forage, mais ça veut dire que dans un an, ils peuvent être à nouveau détériorés. Donc comment est-ce que vous arrivez à gérer
voilà.
ça?
Donc justement, sur place, il y a des comités de gestion qui sont formés pour veiller à l'entretien de ces puits.
Et ces
ces
comités
points
de gestion sont composés de qui?
De personnes qui sont sur place.
C'est des habitants eux-mêmes
voilà.
qui prennent la responsabilité de gérer
voilà.
ce point de forage.
Qui sont dans le village, qui sont formés pour gérer, pour entretenir.
Et ça, c'est aussi le travail d'ADRA, de former ses habitants à entretenir ce point de forage.
Voilà, c'est le travail d'ADRA.
D'accord. Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler aussi d'assainissement? Parce que vous disiez que dans 5 écoles, vous alliez installer des latrines.
Oui.
Vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus, sur ce sujet?
Sur ce sujet, pas beaucoup plus, sauf que c'est très très important, l'hygiène, parce que ça fait partie, il y a l'eau qu'on va boire, mais aussi cette partie de latrine qui est importante.
Le retraitement...
Oui, ce sont des maladies, ce sont des enfants qui sont à l'école, donc qui vont être facilement porteurs de dysenterie ou d'autres maladies qui vont les rendre malades, les empêcher d'aller à l'école. Et ce qui se passe, qu'on ne voit pas, c'est que ici, quand on tombe malade, on va aller à l'hôpital, on a une assurance maladie. Mais là-bas, ce sont les parents qui vont vraiment sortir de l'argent. Ce sont déjà des endroits, des populations qui ne sont pas riches. Donc, ils vont devoir sortir de l'argent pour l'enfant
Payer
qui est
les
malade,
soins.
Voilà, pour payer les soins. Et ça peut être lourd. Ça sent que c'est déjà un investissement d'emmener un enfant à l'école.
Et ça peut être un frein, justement, à l'accès aux soins aussi. S'il faut payer et qu'on n'a pas l'argent...
Voilà, ça peut être un frein.
Vous souhaitez mettre en place ce projet pour quand, Ariane?
Alors, ce projet aurait déjà dû démarrer, mais il n'a pas pu démarrer parce qu'on n'a pas récolté suffisamment de fonds pour pouvoir le démarrer. Donc, on espère pouvoir le démarrer cette année.
Combien est-ce qu'il vous faut?
Alors,
puisqu'on est dans des questions très
voilà,
pratiques.
Voilà, on est dans des questions pratiques. Le projet lui-même coûte 100 000 euros. Et nous, on fait un appel de 40 000 euros, sachant que 22% de cette somme est déjà acquise. Donc, il y a des donateurs qui ont fait des dons. Et on appelle encore. Et si vous allez sur le site, vous allez pouvoir voir le nombre de personnes qui a donné. Et le pourcentage qui est comblé. Donc, il reste encore plus de 30 000 euros.
À trouver. Alors,
oui.
Donc, vous êtes ici aussi pour faire un appel aux auditeurs qui nous écoutent en ce moment, faire un appel à leur générosité.
Oui, je fais vraiment un appel à la générosité de tous ceux qui écoutent, sachant qu'avoir de l'eau potable, ça change une vie, surtout dans une population qui n'a pas beaucoup de moyens, qui n'a pas un accès facile à la santé. L'éducation est vraiment considérée comme un privilège dans les villages où ils peuvent emmener leurs enfants à l'école. Donc, ne pas avoir à gérer ces problèmes additionnels de santé parce que l'eau n'est pas potable, c'est un grand impact. Donc, ce projet a un impact non seulement sur la santé, mais aussi sur le développement de l'enfant. Voilà.
Et comment est-ce qu'on peut faire un don à ADRA pour ce projet spécifiquement?
Pour ce projet spécifiquement, vous pouvez aller déjà, si vous voulez voir le projet, allez sur adra.fr. Sur la page d'accueil, vous allez voir les projets de développement, WASH, Cameroun, DIR, et vous verrez tout le projet. Sinon, vous pouvez aller sur adra.fr/don avec S.
D'accord, donc voilà. Alors, on aura compris, Ariane Undefo, que à travers ce que vous nous avez présenté aujourd'hui, notamment ce projet WASH au Cameroun, et bien que ADRA France ne se limite pas au territoire français, mais agit bien au-delà, à l'international et un peu partout dans le monde.
Oui.
C'était Parole solidaire, une émission consacrée aux solidarités internationales. Nous étions aujourd'hui avec Ariane Undefo, chargée de communication chez ADRA France. Alors, on se retrouve peut-être très vite pour de nouveaux projets, Ariane.
Oui, j'espère.
À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
This is Adventist World Radio, the voice of hope.
Here is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la radio mondiale avventista.
La voce della speranza.
where your spirit calls me, your will is made known. This is the cry of your people. This is the cry of your people. Come, Holy Spirit, rain down your mercy. Lord, we have come here to worship. This is your temple. We are your people. Lord, we have come here to worship. Come, Holy Spirit.
Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste, AWR, et ici c'est la Voix de l'Espérance en compagnie d'Oscar Miani. Si vous le souhaitez, eh bien vous pouvez rentrer en contact avec nos intervenants et leur adresser des questions. Pour cela, vous pouvez adresser vos mails à france@awr.org. Je vous invite maintenant à poursuivre avec un moment de témoignage dans l'émission « C'est vous l'Histoire ».
C'est vous l'histoire.
C'est vous, votre histoire.
Votre histoire.
Votre histoire compte.
Vraiment, je me suis dit, mais tu dois me dire maintenant comment tu me vois. Et puis quand j'ai compris qu'il me voit comme une princesse, je veux dire, il nous donne tellement de valeur. On est vraiment des perles pour lui. Et jusqu'à ce que j'ai vraiment compris ça, ça m'a pris du temps.
Bonjour, aujourd'hui C'est vous l'Histoire ouvre une voie royale à la féminité, la danse et la liberté avec Margarita Fugger-Hesen. Margarita est psychologue et professeure de danse orientale en Suisse, près de Lausanne. C'est là qu'elle a établi ses quartiers avec son mari hollandais et leurs trois petites filles. Margarita, c'est une évidence, se présente au micro de Christine Raymond comme un véritable cocktail.
Simplement parce que déjà je m'appelle Margarita comme le cocktail, mais aussi parce que mon père il est allemand et puis ma mère elle vient d'Équateur. Et mon père il est ingénieur, on a voyagé beaucoup donc on a été vraiment dans plein de pays et je suis née au Brésil et puis après on est allé en Arabie Saoudite.
Margarita, vous avez découvert la danse orientale quand vous aviez 5 ans. Est-ce que ça a été une sorte de coup de cœur?
Peut-être pas tout au début. Je suis juste... Donc, on a vécu en Arabie Saoudite et ma mère, elle a commencé la danse orientale. Elle a pris des cours là-bas. Et moi, j'étais avec elle. Et puis, au fur et à mesure, j'ai appris. Et puis là, oui, ça commençait vraiment à être une passion pour moi. Et après, en même temps, j'ai commencé des cours de danse classique. Donc, j'ai toujours fait danse classique et danse orientale en parallèle.
Après, on est allé en Allemagne. J'ai continué la danse. Et à cette époque-là, la danse orientale n'était pas à la mode. Et c'était assez difficile de trouver des stages pour avancer dans la danse. Et à fur et à mesure, c'est devenu la mode. Et maintenant, aussi en France, en Suisse, on trouve beaucoup la danse orientale. Hein. Mais avant, c'était pas comme ça. Et mes parents, ils m'ont toujours, toujours, toujours soutenue dans ce rêve. Après, je continuais des études parce que je pensais que c'est important aussi d'avoir des études à côté si jamais avec la danse il y a quelque chose où mon corps ne fonctionne plus. Donc j'ai fait des études en psychologie et danse-thérapie et je suis aussi allée à Paris pour me former dans la danse. Donc j'ai dansé dans deux compagnies à Paris et à Paris, j'ai découvert la foi aussi, plus vivante si on veut. Vraiment dans le quotidien. Et je suis allée dans une église qui s'appelle Belleville. Et cette église, elle m'a ouvert l'esprit. Vraiment, elle m'a fait comprendre qui est Dieu, vraiment. Et là-bas, il y avait un pasteur qui soutenait aussi les artistes chrétiens. Et un jour, il m'a dit, « Marga, tu dois danser dans l'église. » Et puis moi, j'étais toujours, j'avais un peu peur. Qu'est-ce que pensent les autres de moi, surtout le danse orientale dans l'église? Alors ça va pas. Et je lui explique, mais moi, je vais bouger les hanches. Et il me dit, tu sais, les hanches, c'est Dieu qui a créé. Le ventre, c'est Dieu qui a créé. Et c'est bien. Et après ça, je t'ai tellement convaincue, je dis, j'y vais. Et donc, depuis là, je travaille beaucoup aussi dans les églises, ou bien on fait des spectacles avec la compagnie dans les églises. Voilà. Donc, à partir de là, c'est vraiment ma foi, elle a commencé à pousser.
Comme une plante,
ouais. Oui. Ouais. Mmh. Et il faut la chérir, il faut faire attention, il faut lui donner de l'eau pour que ça pousse et ça continue. Ouais.
Nous, on connaît la valse ou encore la salsa. Allez, un petit cours de danse orientale pour les nuls.
La danse orientale est très large. Donc, il y a le rakshaki, c'est la danse vraiment très classique qu'on voit peut-être plus dans la télé. Et puis, il y a beaucoup de folklore aussi. Donc, moi, je suis spécialisée dans un style égyptien. Et donc, on a beaucoup, beaucoup de folklore et différentes choses. C'est vraiment très, très riche. Aussi dans les rythmes, dans la musique et... C'est très riche. Donc, cette forme de danse est vraiment aussi de l'art et c'est pas forcément, souvent on a le préjugé que c'est séductrice et c'est vulgaire peut-être. Et ça peut l'être, c'est clair, parce que cette danse, elle est pas neutre, elle touche vraiment la féminité. Donc, ça dépend vraiment de la personne, dans quel état d'esprit elle danse. Et moi, je travaille avec Dieu, si on veut dire. Donc, avec ma foi, je danse dans une autre optique, peut-être. Et donc, c'est, pour moi, c'est vraiment sur le cœur que ça puisse être vu ou reconnu aussi comme art. Mais aussi que, à travers cette danse, on peut vraiment toucher profondément la féminité de chaque femme aussi.
Forte de son expérience, la danseuse a pu constater que de nombreuses femmes pouvaient s'ouvrir et mieux comprendre leur féminité à travers la danse. Quelques anecdotes, toujours au micro de Christine Raymond.
C'est un outil, c'est juste un outil que Dieu utilise pour vraiment toucher et aller profondément dans l'identité de la femme. Il restaure, il touche des choses très profondes, il guérit plein de blessures ou des tensions dans les bassins. Donc on travaille beaucoup avec le bassin et puis il le libère à travers ses mouvements aussi. Parce qu'on est corps, âme, esprit. Et Dieu guérit, il va prendre en compte la totalité, pas juste l'âme, ou l'esprit, donc ça veut dire les émotions ou bien spirituellement ce côté-là, mais il y a le corps et dans notre société le corps est tellement mis à part, il fonctionne quand on veut et il doit être beau ou il doit être ferme ou il doit être comme ça ou comme ça, surtout pour les femmes, on a cette image de la mode qui est vraiment une image tellement faussée et puis c'est une utopie. Et on se compare constamment à cette image qui est vraiment faux et qui nous rend vraiment malheureux. Et de se détacher de ce regard-là et de se mettre sous le regard de Dieu, dans le sens de comprendre que Dieu m'a fait comme je suis et qu'il me trouve belle comme je suis. Et qu'il est content que chacune est différente. Et la différence, c'est ce qu'il aime, et pas l'uniformité, comme dans la mode. Hein. Donc, les cours tournent un peu autour de tous ces thèmes. On parle ouvertement de la séduction, de l'intimidation, de la peur du regard de l'autre sur moi, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est très puissant et qui peut me déformer, et puis je suis plus vraiment qui je suis. Donc, Dieu utilise vraiment cette danse, mais aussi tous ces thèmes autour de cette danse et la féminité pour réfléchir réfléchir, pour grandir, pour redécouvrir des choses et puis pour libérer. À la fin, c'est ça. C'est juste que les femmes deviennent libres. Et je vois ça dans les cours. C'est vraiment comme des fleurs qui s'ouvrent. Vraiment de toutes ces peurs, de toutes ces pensées négatives sur nous-mêmes, sur notre corps. Tout ça se dégage à fur et à mesure. Et puis à la fin, on voit vraiment qui est cette femme. Alors, par exemple, quand je donne des cours, il y a des femmes qui sont venues et on a ouvertement parlé de la séduction et on a dit aussi pourquoi on veut séduire. C'est juste pour attacher l'autre à nous, pour être aimé. C'est juste pour être aimé. Et puis, après, quand elles comprennent qu'elles sont déjà aimées, elles n'ont pas besoin encore de rajouter ou d'attirer. Mais c'est magnifique comment ces femmes deviennent belles sans être séductrices et comment elles reçoivent cette dignité royale vraiment et de savoir qui elles sont et que c'est bien comme elles sont. Et donc ça, c'est vraiment les choses qui me touchent à fond. Ouais.
Est-ce que vous voyez aussi le regard des femmes changer sur elles-mêmes quand elles mettent les costumes?
Ah oui. Il y a même une parole dans la Bible et puis c'est écrit que Dieu a changé mon vêtement de deuil dans un vêtement de fête. Et j'utilise ça souvent dans mes cours. Et c'est vrai, quand on s'habille tout d'un coup comme des princesses, c'est comme ça, parce que les costumes brillent et tout ça. C'est aussi de se rendre belle. On a le droit de se rendre belle. Toujours quelle attitude de cœur j'ai avec. Mais c'est vrai que ça stimule aussi de comprendre sa valeur. Mais le plus important, c'est vraiment de comprendre que Dieu, et ça c'est écrit aussi dans la Bible, que je suis merveilleusement faite. Et que Dieu veut qu'on croie ça. Et dans les cours, je vois comment de plus en plus, il y a des femmes qui vivent de cet endroit-là, de penser « je suis merveilleusement faite ». Et j'ai aussi une responsabilité sur mon corps, sur qui je suis. Donc c'est quelque chose que je vois de plus en plus aussi.
On a parlé des femmes, on a parlé aussi du regard qu'on pose sur soi-même, sur la féminité. Et puis il y a le regard des autres, il y a notamment le regard des hommes.
Ouais. Alors j'ai fondé une compagnie, et puis avec cette compagnie on crée des spectacles. Et de plus en plus, il y a maintenant des hommes qui viennent et ils nous disent « mais ça a changé mon regard sur la femme, ça m'a ouvert des yeux ». Et je crois vraiment que quand on voit cette valeur et cette dignité. Nos spectacles s'appellent Dignité Royale. Donc si un homme aussi se aperçoit ou comprend cette dignité royale dans la femme, qui est dans lui aussi, mais de côté féminin là, forcément je pense que ça travaille. Dans le positif ou le négatif, mais là on a plus des retours positifs où les hommes disent mais ça m'a changé, je vois la femme différemment. Donc on est content que Dieu fasse son travail, pas juste avec les femmes, mais aussi avec les hommes, ouais. Travail de deux côtés là.
Une dernière question qui est une petite question rigolote, mais est-ce que vous pensez, Margarita, que toutes les femmes sont capables de danser?
Oui, physiquement, si vous n'avez pas un problème avec le dos ou bien des accidents, mais tout le monde peut, tout le monde peut. Parce qu'il y a des femmes qui viennent, je suis totalement rouillée, non, elles disent, et j'arrive pas. Et puis après quelques mois, quelques années, ça va.
Vous sentez isolé, désorienté, perdu, en recherche? L'IEBC, l'Institut de la Bible par correspondance, vous accompagne et vous propose des cours gratuits à suivre chez vous et à votre rythme. Retrouvez-nous vite sur www.iebc.org et vous verrez, votre vie va changer. Parce que croire, c'est la vie.
Alors, si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org pour la réécoute des podcasts. Et comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Si vous voulez le faire depuis la France, il vous suffit de composer le 01 80 14 44 77. Et si vous voulez le faire en dehors de France, eh bien vous faites le 00 33 1 80 14 44 77. Et si vous voulez le faire depuis les États-Unis, eh bien, il y a un numéro spécial qui est le 1-712-432-9978. Votre émission est pour aujourd'hui terminée. Vous étiez à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste, AWR, pour votre émission en français, La Voix de l'Espérance. et vous étiez pour cela en compagnie d'Oscar Miani. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure pour votre nouveau programme. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Prenez bien soin de vous.